Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Barge pour vous présenter le monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition du 26 août 2014, le Nigeria a révisé à la baisse le nombre de cas d'Ebola confirmés dans le pays. Inculpation de l'ex-ministre togolais Pascal Bojona pour complicité dans une affaire d'escroquerie. Sa défense crie au complot politique.
Nous ne pensons pas le faire. Je crois que nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Je crois que nous allons saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire.
Maître Raphaël Kpandé Adzaré. Lancement de la campagne de planification familiale au Mali, où les méthodes contraceptives sont très peu utilisées.
Dans la planification familiale, il n'y a pas que espacer les naissances. Il y a le traitement des IST, VIH, SIDA et le traitement de l'infertilité également. Tout est pris en compte dans la planification familiale.
Une mère de famille de la localité de Ngorikopelan, la Maison Blanche a affirmé ne pas avoir versé de rançon pour la libération du journaliste Peter Theo Curtis. Mais avant de développer ces titres et d'autres sujets d'actualité, voici le journal.
En Centrafrique, le nouveau gouvernement du Premier ministre Mahamat Kamoun se prépare à entrer en fonction. Les passations de services dans les ministères devraient prendre plusieurs jours avant que le nouveau cabinet ne soit effectivement opérationnel. En attendant, c'est la menace d'Ebola qui retient l'attention des Centrafricains. La récente mise en quarantaine à l'aéroport de Bangui de deux voyageurs en provenance d'Afrique de l'Ouest a en effet inquiété la population. Les tests se sont avérés négatifs, donc pas de panique, déclare le docteur Luc Salva Eredebona, directeur de la communication au ministère de la Santé.
Je crois que cette trouille, elle est internationale. Ce n'est pas seulement la République centrafricaine. Ce qui a amené beaucoup d'États à prendre des mesures drastiques, mais nous nous mettons à respecter strictement les directives données par l'Organisation mondiale de la Santé. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé a mis en place un dispositif de surveillance au niveau de l'aéroport en urgence. Mais entre-temps, il est prévu 30 sites de surveillance le long du fleuve, à l'intérieur, les voies routières. Toutes ces voies sont contrôlées pour que tout cas suspect soit orienté dans une structure spécialisée, soit prélevé pour tester. Au cas où on détecte un cas, ces personnes seront isolées pour être prises en charge. Heureusement, le ministère de la Santé avait anticipé déjà l'identification de certains sites qui sont en communication avec la République démocratique du Congo. Et même les équipes ne sont pas encore redéployées là-bas. Certainement, dans les jours à venir, une fois que les matériaux seront là, ils seront redéployés. Nous, en République centrafricaine, nous respectons les différentes consignes édictées par l'OMS, comme quoi le fait de fermer systématiquement les frontières avec les États qui ont déclaré l'épidémie risquerait d'empêcher la surveillance. C'est-à-dire que les gens vont créer leur pertuis pour entrer entre les États et du coup, ça va nous échapper. Mais le fait de garder ces sites au niveau de frontières nous permettra de vite identifier s'il existe un cas et neutraliser pour que la population centrafricaine en soit épargnée.
C'était le docteur Luc Salva Eredebona du ministère de la Santé en République centrafricaine.
Et le Nigeria a révisé à la baisse le nombre de cas d'Ebola confirmés dans le pays. Le coordonnateur de l'ONU contre l'épidémie, David Nabarro, a averti que cela prendra plusieurs mois pour barrer la route au virus mortel. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Selon le ministre nigérian de la Santé, Onyebuchi Chukwu, le 14e cas initialement annoncé comme positif s'est révélé finalement négatif. 5 patients sont morts dans le pays et 5 ont recouvré la santé depuis l'apparition de la maladie le 20 juillet à Lagos. En visite hier en Sierra Leone, David Nabarro, coordinateur de l'ONU contre l'épidémie, a averti que la guerre contre le virus Ebola n'est pas gagnée et pourrait prendre 6 mois. Au Liberia, un médecin traité avec le sérum expérimental américain ZIMAP, le docteur Abraham Borbo, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Un expert médical de l'OMS a été contaminé en Sierra Leone, devenant le premier cas parmi les quelques 400 personnes déployées pour aider ce pays. De nationalité sénégalaise, cet expert devrait être transféré vers un centre de soins en Europe. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé Félix Kabange Numbi a sollicité 2 millions de dollars pour lutter contre un foyer d'Ebola près de Boende dans la province de l'Équateur. La zone concernée a été placée en quarantaine. Selon le ministre, ce virus n'a aucun lien avec celui prévalent en Afrique de l'Ouest.
Au Sénégal, le procès de l'ancien ministre Karim Ouad a repris hier devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La semaine dernière, cette Cour spéciale avait rejeté une demande de son principal co-accusé d'aller se faire soigner en France. Félix Yepassis Zembrou nous en dit plus.
Ibrahima Khalil Bourgui, dit Bibo, homme d'affaires d'origine libanaise, également de nationalité française, est hospitalisé dans une clinique de Dakar. Il est considéré par l'accusation comme un prêtre au nom de Karim Ouad. Ses avocats ont dénoncé samedi le refus opposé à sa demande d'être rapatrié d'urgence en France. Il était apparu au début du procès, assis dans un fauteuil roulant et portant des bouteilles de perfusion. Le président Henri Grégoire Diop l'avait alors autorisé à s'absenter des audiences pour des raisons de santé. Les avocats de l'État disent craindre une fuite. Karim Ouad, en détention préventive depuis avril 2013, est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller, puis ministre de son père et ancien président Abdoulaye Ouad.
Nouvelle crise politique en Libye. En effet, le pays a désormais deux assemblées nationales rivales. Le point avec Sarah Diaby.
En effet, le Congrès national général, l'ex-parlement de transition libyen, s'est hier réuni à Tripoli, la capitale, pour nommer un professeur d'université, Omar Al-Hassi, comme premier ministre du pays. Dominé par les islamistes, le Congrès conteste ainsi la légitimité de la Chambre des représentants nouvellement élue en juin et dominé par les libéraux et les fédéralistes. Cette dernière avait déjà nommé un autre premier ministre, à savoir Abdullah Al-Thani. Il faut dire que le Parlement sortant a engagé l'épreuve de force après avoir perdu une bataille juridique visant à évincer M. Thani, dont l'élection était soutenue par les États-Unis. Le choix d'Omar Al-Hassi comme chef de gouvernement par les ex-législateurs libyens est intervenu deux jours après la prise du contrôle de l'aéroport international de Tripoli par une milice de la ville côtière de Misrata, à l'issue de plusieurs semaines d'affrontements avec une milice rivale de la région de Zintane. Les pays voisins de la Libye, à savoir l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan et le Tchad, se sont réunis au Caire pour discuter des solutions à la crise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, le président américain a autorisé des vols de surveillance au-dessus de la Syrie. L'officiel a dit que M. Obama n'a pas approuvé une action militaire, mais que les États-Unis envisagent toutes les options pour lutter contre les combattants de l'État islamique qui ont pris le contrôle de vastes zones dans l'est de la Syrie et le nord et l'ouest de l'Irak. Des avions américains ont mené des frappes aériennes en Irak pour aider les forces irakiennes et kurdes à combattre les militants islamistes. Les responsables du Pentagone ont exprimé la nécessité de les combattre des deux côtés de la frontière.
Des missiles israéliens ont frappé l'un des plus hauts bâtiments de la bande de Gaza ce matin, blessant au moins 20 Palestiniens. Hier, les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 8 personnes et selon l'armée, 80 roquettes du Hamas sont tombées sur le territoire israélien sans faire de victimes. L'Égypte, qui a mené les négociations de paix ayant échoué début août, appelle à nouveau Israël et le Hamas à faire une trêve et à la réouverture des négociations. Le Caire propose d'ouvrir les passages clés dans la bande de Gaza pour laisser passer l'aide humanitaire et du matériel pour réparer les bâtiments endommagés. Lundi, des responsables palestiniens ont semblé accepter la proposition égyptienne, tandis qu'il n'y a pas eu de réaction immédiate du côté d'Israël.
En Ukraine, le président Petro Porochenko a annoncé lundi avoir signé un décret de dissolution du Parlement. L'élection d'une nouvelle assemblée aura lieu le 26 octobre prochain. Jean-Roger Bion.
La dissolution du Parlement était attendue étant donné l'effondrement de la coalition gouvernementale et la démission du Premier ministre Arseniy Yatsenyuk le 24 juillet dernier. Le scrutin aura lieu le 26 octobre. L'organisation du scrutin va représenter un grand défi puisque certaines régions de l'est du pays demeurent sous contrôle des rebelles pro-russes et que près de 200 000 personnes sont déplacées sur le territoire, selon la plus récente estimation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'armée ukrainienne a affirmé lundi avoir engagé le combat avec une colonne de blindés en provenance de Russie et faisant route vers la ville côtière de Mariupol sous contrôle des rebelles. Le président Petro Poroshenko se rend aujourd'hui à Minsk, au Bélarus, pour un sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine et les dirigeants de l'Union européenne, rencontre qui sera en grande partie consacrée au conflit dans l'est de l'Ukraine.
Enfin, la Maison-Blanche a affirmé qu'aucune rançon n'a été versée à des extrémistes islamistes pour la libération du journaliste américain Peter Theo Curtis. Alors que les conditions exactes de la libération de Curtis sont encore mal connues, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a indiqué que la famille du journaliste avait été mise en contact avec les autorités du Qatar qui ont négocié avec le Front al-Nusra, le groupe qui le retenait captif depuis près de 2 ans. M. Earnest a précisé que les États-Unis ont demandé au Qatar de ne pas payer de rançon pour Curtis.
Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui. Nathalie Barge en direct du studio 13 à Washington. Au Togo, l'ancien ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodjona, est à nouveau placé sous mandat de dépôt depuis le 21 août. Il est inculpé depuis 2 ans de complicité dans une affaire d'escroquerie. Lola Akomasri a joint maître Raphaël Kpandé-Adzaré, un de ses avocats qui parle d'un complot politique.
Le motif du mandat de dépôt, c'est tout simplement parce que le ministre Pascal Bodjona a voulu exercer ses prérogatives que la loi, notamment les dispositions de l'article 92 de notre code de procédure pénale, lui reconnaît. L'article 92 du code de procédure pénale togolais dispose essentiellement que lors de la première comparution, le juge notifie, entre autres, à l'inculpé de lui tenir informé de tout changement d'adresse. Et donc, c'est un droit pour l'inculpé et une obligation mise à la charge du magistrat instructeur. Le ministre Pascal Bodjona a été inculpé le 4 décembre sans que cette notification lui soit faite. Et donc, c'est le contenu de la requête dont s'était muni le ministre Bodjona et ses avocats le jeudi dernier, c'est-à-dire le jour de sa convocation. Et le ministre et ses avocats ont déposé cette requête 10 minutes avant l'audience. La conséquence immédiate, c'est que le juge, le magistrat instructeur, devait transmettre le dossier au procureur général, donc à la chambre d'accusation, pour être statué sur le cas de nullité. Au lieu de faire cela, le magistrat instructeur a demandé donc au ministre Bodjona de répondre à cette question, et puisque celui-ci s'en tenait au contenu de sa requête, ils ont dit, mais puisque le ministre ne voudrait pas déférer à ce qu'eux demandaient, qui était du pur non-droit, ils ont pris le mandat de dépôt. Et nous concluons aujourd'hui que dans les conditions que notre client a été déposé, et vu la justification du mandat de dépôt, nous pensons que le ministre Pascal Bodjona est un détenu politique. Et croyez-moi, le ministre a été déposé dans une des prisons les plus surpeuplées du Togo. En décembre 2013, le taux d'occupation de la prison civile de Thiéville, là où le ministre est déposé, était estimé à 407%.
Maître Raphaël Kpandé-Adjaré, dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire pour libérer votre client, Pascal Bodjona?
Nous ne pensons pas le faire. Je crois que nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Je crois que nous allons saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Je crois que nous avons assez d'arguments pour faire prévaloir que M. Pascal Bodjona aujourd'hui est un détenu politique. Il est arbitrairement détenu et nous croyons que si la justice nationale ne dit pas le droit, nous nous fierons à la justice internationale.
Maître Kpandé-Adzaré et Raphaël étaient joints à Lomé. Rappelons que l'affaire d'escroquerie oppose Pascal Bodjona à 3 autres protagonistes, notamment l'émirati Abbas Al-Youssef, l'homme d'affaires togolais Akbas Aubertin et l'ancien PDG d'Elf Loïc Lefloc-Prigent. En cavale en Grèce, Akbas Bertin a été interpellé et il est en instance d'extradition au Togo. Le français Loïc Lefloc-Prigent, lui, a été libéré en février 2013 par la justice togolaise.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Au Mali, 8% de la population seulement a recours à la contraception. Le taux est un peu plus élevé, notamment dans la région de Kayes, où il a dépassé 10%, une légère progression qui s'explique par la conjugaison des efforts des partenaires et aussi par l'implication des populations de la localité de Ngorikopelan, qui ont fait de l'espacement des naissances leur priorité. Un tour d'horizon de la planification familiale dans cette région malienne avec notre correspondant Kassim Traoré.
C'est à la faveur du lancement de la campagne pour la planification familiale que la population de Ngori Kupela se sont intéressées à cette pratique. Le temps a été donné par les femmes qui ne connaissaient rien dans la planification familiale.
J'ai entendu parler de la planification familiale avec d'autres femmes et à la radio. Elle permet d'espacer les naissances, de mettre à l'aise la maman, le papa et l'enfant qui grandit facilement. Pour moi, la planification est réservée aux femmes mariées qui ont des grossesses à rapprocher. La planification familiale signifie espacer les naissances. La maman aura moins de problèmes. Avec les naissances à rapprocher, impossible d'être quelqu'un de propre. Si tu arrives à espacer les naissances, les enfants se portent mieux et toute la famille s'épanouit.
Dans le district sanitaire de cette localité, la prévalence contraceptive s'est améliorée de 6,1% en 2006. Elle est passée à 9,5% en 2013. Ces résultats encourageants s'expliquent par la multiplication des acteurs sur le terrain et à une forte implication des acteurs communautaires.
Ils ont vu l'impact que la planification familiale a eu dans la commune. Il y avait beaucoup de décès maternels et il y avait aussi des décès néonatals. Donc ils ont vu une nette amélioration à ce niveau. Les chefs religieux, ils sont beaucoup impliqués là-dedans. C'est pourquoi nous avons des résultats vraiment très encourageants.
Bien qu'ils aient que les autres pratiques, l'espacement des naissances n'est pas la seule recette de la planification familiale.
Seulement d'espacer les naissances au minimum 2 ans et maximum 5 ans. Ce n'est pas une limitation de naissance, c'est un espacement. Dans la planification familiale, il n'y a pas que espacer les naissances. Il y a le traitement des IST, VIH, SIDA et le traitement de l'infertilité également. Tout est pris en compte dans la planification familiale.
Cette année, dans la région de Kaï, la planification sera axée sur le redéploiement de la pratique en faveur des jeunes.
Nous voulons atteindre le maximum de jeunes dans cette campagne pour les sensibiliser sur les méfaits des avortements clandestins, les sensibiliser par rapport au dépistage volontaire sur le VIH-SIDA et les comportements responsables.
En termes de prévalence contraceptive, la région de Kaïch était à 2,5% en 2010. Aujourd'hui, elle a passé à 10%. Cela grâce au concours des partenaires et la nouvelle stratégie mise en place, comme la formation, le suivi des partenaires dans les centres de santé communautaires. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Après la prise d'une importante base aérienne syrienne par les militants de l'État islamique dimanche, le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Al-Mualem exhorte la communauté internationale à coopérer avec son gouvernement contre le péril islamiste. Il a aussi sommé certains pays voisins d'arrêter leur soutien présumé au groupe djihadiste. Voici un reportage d'Edward Iranian présenté par Michel Joseph.
D'un ton conciliant, le ministre syrien des Affaires étrangères a déclaré à la presse que Damas est à la recherche d'un soutien international pour lutter contre les militants de l'État islamique. Walid Al-Mualem dit que son gouvernement est prêt à coopérer au niveau régional et international pour lutter contre le terrorisme si on respecte la souveraineté et l'indépendance de la Syrie. Selon ses propres termes, le gouvernement syrien représente la souveraineté du pays. Pour Mualem, les militants de l'État islamique et de Jabhat al-Nusrat sont plus dangereux que les talibans ou Al-Qaïda. Ils trouvent ironique que les États-Unis essaient d'affaiblir le gouvernement syrien et son armée tout en affirmant vouloir lutter contre le terrorisme. Mualem insiste que son gouvernement ne va pas accepter des attaques unilatérales États-Unis contre les militants de l'État islamique sur le sol syrien. Mais il n'a pas indiqué si les forces syriennes vont s'en prendre aux avions américains qui pénétreraient sans autorisation dans l'espace aérien national. Il a accusé le Qatar et la Turquie de soutenir les militants.
Ce plaidoyer du gouvernement syrien pour une coopération internationale est intervenu au lendemain de la prise par des militants de l'État islamique de la base aérienne de Tabqa, près de la capitale de la province septentrionale de Raqqa. Le groupe islamiste a publié des photos horribles sur Internet montrant ces éléments paradant avec des têtes de soldats gouvernementaux. Hilal Khashan, qui enseigne les sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth, a expliqué à la VOA que la capture de la base aérienne et le désir soudain de l'Occident de bloquer toute propagation de l'État islamique peut aider Damas à se défaire de son image d'État paria. Pendant des mois et des mois, le régime de Damas a parlé du fait qu'il était à l'avant-garde dans la lutte contre le terrorisme mondial. Les dernières avancées de l'État islamique en Irak et leur capture de la base aérienne de Tabqa envoient un autre message à la communauté internationale, à savoir « nous sommes dans une même tranchée contre un ennemi commun ». Donc, qu'il l'admette ou pas, je crois que l'Occident cherche à coopérer avec le régime de Damas, même si c'est discrètement. Toutefois, Joshua Landis, qui dirige le département des études du Moyen-Orient à l'Université d'Oklahoma, pense qu'il y a peu de possibilités de voir Washington dans une alliance ou une coopération formelle avec le régime Assad.
Après plusieurs jours d'émeutes dans la ville américaine de Ferguson, dans le Missouri, la journée de lundi était calme lors des funérailles de Michael Brown, l'adolescent tué de plusieurs balles par un policier le 9 août. La cérémonie, sous haute surveillance, s'est déroulée dans une église baptiste qui pouvait accueillir jusqu'à 5000 fidèles. Plusieurs leaders des droits civiques étaient présents et le président Obama s'est fait représenter par 3 officiels de la Maison-Blanche. Jacques Aristide a joint Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri-Saint-Louis, qui a suivi l'événement.
Il y avait une forte présence de stars ou vedettes, parmi lesquelles Spike Lee, P. Diddy, Snoop Dogg. Mais il y avait également des personnalités religieuses, parmi lesquelles Martin Luther King Jr., et surtout le révérend Al Sharpton, qui est en quelque sorte un représentant de la Maison-Blanche même, selon la presse. Personnalités locales, également les amis de Mike Brown, ses condisciples de classe. Et ce qui m'a frappé, c'est le fait que les funérailles ont été chantées par un oncle de Michael Brown. C'est assez triste de voir, par exemple, non seulement les parents de Michael Brown, mais également les parents de Trayvon Martin, qui a également perdu sa vie il y a 2 ans en Floride. Donc, nous avons ici une sorte d'événement national et historique.
Un grand jury du comté de Saint-Louis a été chargé de décider s'il y a lieu de poursuivre le policier de 28 ans pour leur mise en congé forcée. Il s'agit donc de l'une des enquêtes. Il y a plusieurs enquêtes en cours. Où en est-on, professeur?
Bon, en ce moment, le jury a été convoqué. Ça va prendre du temps, peut-être 1 ou 2 semaines avant que ses membres puissent donner une décision. Mais en même temps, il y a d'autres enquêtes. Il y a une enquête au niveau fédéral et même une enquête au niveau de l'État de Missouri. Tout ça va prendre du temps. J'espère que le calme qui est revenu à Ferguson continuera. Mais on a également besoin non seulement du calme et de la paix, mais également de la justice. Mais la justice prend du temps. Mais j'espère quand même qu'on aura justice.
Le professeur Jean-Germain Gros était joint à Ferguson dans l'État américain du Missouri. Vous écoutez Sur la Voix de l'Amérique, votre émission matinale, Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors, l'Ebola refait parler de lui sur les terrains de football pour les qualifications de la CAN 2015.
Qualifié sur tapis vert aux dépens du Rwanda, le Congo a adressé une demande officielle à la Confédération africaine de football pour que la rencontre que les Diables Rouges doivent disputer le 6 septembre prochain à Calabar, dans le sud-est du Nigeria, soit délocalisée. Le virus Ebola a déjà obligé la CAF à délocaliser les rencontres Guinée-Togo à Casablanca et Sierra Leone-RDC sur un terrain encore à définir, alors qu'une menace pèse toujours sur la tenue du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone à Abidjan le 6 septembre.
Et la mort d'Albert Ebossé continue de susciter des commentaires, n'est-ce pas?
Oui, ce joueur camerounais de la JS Kabylie est mort ce week-end après avoir reçu un projectile sur la tête. Le patron du foot mondial, Sepp Blatter, a tweeté hier « Intolérable qu'un spectateur provoque la mort d'un joueur. Stop à la violence. Mes pensées émues aux proches d'Albert Ebossé. Repose en paix. » Hier, la Fédération algérienne de football a annoncé que tous les matchs des championnats professionnels et amateurs d'Algérie seraient annulés pour le week-end prochain. Le syndicat national des footballeurs camerounais a de son côté annoncé qu'une minute de silence serait observée au Cameroun lors de tous les matchs de Ligue 1 également le week-end prochain.
En bref, pour terminer...
Et oui, l'attaquant italien de 24 ans, Mario Balotelli, a signé un contrat de longue durée avec Liverpool. C'est ce qu'ont annoncé hier les Red Devils, alors que le transfert de l'ex-joueur de Milan AC est estimé à environ 20 millions d'euros.
Merci Nicolas pour cette page sportive. À très bientôt, au revoir. À présent, une page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Nathalie. Junior Gang n'est sans doute pas aussi évocateur que Marley, mais Damien, le fils du mythique Bob, se cache sous ce nom et ce surnom. Dans cette chanson Welcome to Jamrock, il aborde loin des préoccupations commerciales, la pauvreté et la violence qui dévastent la Jamaïque.
Out in the street, they call it murder.
Jamrock, jump where the thugs and camp at. It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. The smell of tea your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas.
Alors né en Jamaïque, le plus jeune fils de Bob Marley sort en 1996 son premier album Mr. Marley, produit par son frère Steven, n'est-ce pas?
Oui Nathalie, et c'est en 2001 qu'il commence alors à mélanger la tradition paternelle à la modernité dans Halfway Tree, élu meilleur album reggae au Grammy Awards. Le reggae jamaïcain avec toute la force de sa basse, de sa batterie et de sa vision de la société, hein, avec toute sa sensibilité, rencontre alors les rythmes du 21e siècle, le rap américain et les sonorités hip-hop ou R&B.
Damien Marley, welcome to Jamrock. Merci Roger.
Bonne journée Nathalie.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show chaque jour à 20h, temps universel.
Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks and them a lock rocket. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Southside, Northside. East Coast, West Coast. Yo.
Et c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Bonne journée, au revoir.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.